vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, Guide de survie des proches aidants, conseils pratiques pour soutenir sans s'épuiser, publié aux éditions de l'Homme. Selon une enquête récente, il y aurait 15 millions d'aidants en France, soit un Français sur cinq qui soutiennent principalement un membre de leur famille. Et ce livre, justement, parle de comment on devient aidant, ce que cela implique et surtout comment ne pas sombrer. Rien de mieux que ces auteurs pour nous en parler dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Brissette, un de ces auteurs, donc, qui a une maîtrise en service social. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Et la deuxième auteur de ce livre, Michel Arcan, qui est psychologue. Bonjour Michel.
Bonjour à tout le monde.
Et merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, j'ai résumé en début d'émission en quelques mots votre ouvrage, mais je vais d'abord vous laisser la parole peut-être pour nous expliquer l'essence même de ce livre. Lorraine, vous pouvez commencer.
Oui, c'est un livre qu'on a commencé à écrire il y a vraiment très longtemps, dans les années, fin des années 80, parce que moi, j'étais responsable de services à domicile et on s'apercevait que souvent, le vendredi en particulier, on recevait des appels de détresse de la part de proches aidants qui n'en pouvaient plus, qui étaient au bout du rouleau, essoufflés, qui n'avaient pas d'aide. Et on s'est posé la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir plus tôt en prévention, plutôt que d'intervenir un peu comme les pompiers, au fond, quand l'incendie est déjà déclaré. Et on savait pas exactement comment procéder. Alors, c'est à ce moment-là que Mme Martin est intervenue dans le processus, comme elle avait déjà une clientèle de professionnels, de soignants épuisés, qui lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos observations?
Finalement, j'ai étudié les réponses que les proches aidants avaient données. Donc, c'est très important de dire que ce qu'on a pondu comme méthode, en fait, si on peut s'exprimer ainsi, ça vient en fait des réponses que les proches aidants nous ont données. Tout le monde invariablement se demandait, mais pourquoi ça m'arrive? Bon, je vais aller vite un peu là-dedans, mais aussi tout le monde nous disait, ben je me sens coupable, j'en fais peut-être pas assez. Bon, même quand c'était une maman épuisée, elle disait la même chose, parce que maintenant on parle du burn-out parental aussi. Donc, finalement, j'ai mis tous ces morceaux de puzzle ensemble, et puis j'ai regardé, mais en fait, un peu à la Vaslavik, c'est un auteur américain, je me suis dit, mais comment on pourrait faire pour ne pas s'épuiser? Mais je dis pas ça pour que les gens se culpabilisent s'ils le sont épuisés, parce que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans l'épuisement. Il y a des facteurs, on appelle ça multifactoriels. Dans le fond, ça peut être le fait que la personne, elle n'a pas un grand entourage, elle n'a pas un grand réseau, elle est moins soutenue pour toutes sortes de raisons. Donc, les facteurs d'épuisement sont multiples.
Oui, les facteurs d'épuisement, en fait, il y a deux grands facteurs. Il y a ce qu'on appelle le fardeau objectif. C'est certain qu'un proche aidant qui vient une fois ou deux par semaine voir son parent a peut-être moins le risque de s'épuiser que le proche aidant qui vit 24 heures sur 24 avec la personne malade. Donc, l'ampleur de la tâche, c'est un facteur qui est extrêmement important à considérer. Et il y a ce que les chercheurs ont appelé le fardeau subjectif. C'est-à-dire comment le proche aidant vit la situation d'aidance. On a constaté dans les recherches qu'il y avait trois facteurs qui sont un petit peu prédictifs, si vous voulez, du risque d'épuisement. Il y avait le premier facteur, c'est la capacité de gérer son stress ou son anxiété. Alors, les personnes extrêmement anxieuses qui veulent contrôler tous les aspects de la situation, elles s'épuisent parfois avec leur anxiété. Donc, une personne qui aussi est peu entourée. Alors, la faiblesse du réseau, et non pas juste du réseau fonctionnel, mais du réseau affectif. Un proche aidant qui n'a pas personne qui va le soutenir, l'encourager, l'écouter, le valoriser, ben, il est plus à risque aussi. Et finalement, ben, il y a un dernier facteur sur lequel on n'a pas beaucoup de contrôle, c'est la qualité de la relation antérieure avec le malade. Alors, évidemment, si la relation avec la personne malade a été de longue durée, une bonne relation, une relation d'affection et d'échange, le poids, si vous voulez, du fardeau subjectif est beaucoup moins lourd, que si la relation elle-même était problématique. Donc, ça donne un petit peu un aperçu. Évidemment, tout le monde n'est pas à risque de s'épuiser, mais certaines personnes le sont beaucoup.
Souvent, le proche aidant, il est dans l'émotion au début quand il y a l'annonce de la maladie. Donc, souvent, ils partent un peu sur les chapeaux de roue. On a fait une distinction entre sprint et marathon. Donc, ce qui peut aider, c'est que le proche aidant se dise, ça sera peut-être un marathon. Donc, si je veux aller loin, je vais ménager ma monture. Parce que si s'engage pour un sprint, ben on met toute la gomme, comme on dit. Puis après, ben finalement, quand on parle d'épuisement, on parle toujours d'énergie. C'est pas une question spirituelle, là, pas du tout. L'énergie physique, c'est un Américain, Alexander Lowen, qui a parlé de ça. Le corps, il fonctionne avec de l'énergie. Notre voiture fonctionne avec de l'essence ou du fuel. Mais nous, on fonctionne avec de l'énergie. Et il y a une grande injustice sur cette terre, c'est que personne ne vient au monde avec la même énergie. Donc, c'est important que le proche aidant ne se compare pas à d'autres personnes.
Alors justement, pour rentrer un petit peu plus sur une question essentielle, enfin, c'est quoi un proche aidant? Comment on peut le définir?
Ben, la loi maintenant est très, en tout cas au moins au Québec, la loi est éclaircie. C'est que c'est une personne qui offre une aide de façon temporaire ou permanente, occasionnelle ou régulière à une autre personne, sans rémunération comme telle. Et volontairement. Donc, ça peut inclure, bon, au début, au Québec, surtout quand on a mis en place des structures comme l'appui, c'était surtout pour les proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie. Maintenant, la définition nouvelle de proche aidant inclut tout type de soutien à un proche ou à une personne de l'entourage. Donc, ça va inclure le soutien à des personnes handicapées, le soutien à des personnes atteintes d'une maladie grave, ou enfin, donc tout type d'aide va maintenant être inclus dans ce qu'on appelle la proche aidance.
Et ça comprend la durée, ça comprend aussi le 24 heures, ça compte, c'est pas une ou deux heures par semaine. Proche aidant, le mot proche va prendre toute son importance, c'est que c'est pour tout, là. La personne s'occupe de tous les rendez-vous médicaux. S'il y a un réseau, ben évidemment, on suggère de partager un peu selon ses capacités les tâches à faire. Et ça rejoint le fameux fardeau objectif. Qu'y a-t-il à faire et qui peut me soutenir si je veux prévenir l'épuisement, par exemple?
Avant, on parlait d'aidants familiaux il y a plusieurs années. Maintenant, on a changé la terminologie. On parle de proche aidant. On a élargi le concept. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une personne de notre famille apparentée qu'on soutient. Donc, ça peut inclure des bénévoles, ça peut inclure une voisine, un voisin, une amie proche. Donc, d'autres personnes qui n'ont pas de liens familiaux, mais qui sont là de façon continue pour permettre le soutien d'une personne en perte d'autonomie.
Et effectivement, c'est important de souligner ce point-là. Et puis, il y a un facteur aussi, c'est la notion de reconnaissance. Souvent, les gens disent, ou la notion financière, là, c'est un peu un sujet tabou, mais souvent, il y a des proches aidants qui sont obligés de quitter leur emploi. Donc, ça, c'est pas évident non plus pour les fins de mois. Et des fois, ça rajoute au fardeau objectif.
Je voudrais revenir sur le point de la reconnaissance. Un proche aidant qui aide une personne qui a de la reconnaissance, qui la remercie ou qui la valorise ou qui apprécie et qui exprime son appréciation, ben c'est un plus au niveau du soutien moral du proche aidant. C'est important il y a toujours la fameuse notion de donner sans compter. On donne, mais s'il n'y a jamais la moindre signe de reconnaissance, d'appréciation ou de valorisation, à plus ou moins long terme, ça devient une usure pour le proche aidant. C'est important de comprendre cette notion-là, et même pour les autres membres de la famille. Si c'est une personne qui soutient, par exemple, le parent à temps plein, et qui a des frères, des sœurs de l'entourage, c'est important que tout le monde soit conscient que le proche aidant a besoin d'être encouragé, soutenu, valorisé. Et ça, plus il va y avoir de personnes autour du malade ou de la personne en perte d'autonomie, plus il va y avoir de personnes qui vont soutenir, plus on risque d'avoir un soutien à domicile qui va durer dans le temps et qui évitera les épuisements. Ce qui est dramatique, c'est quand le proche aidant est tout seul dans son rôle, qu'il n'y a pas de soutien à l'extérieur.
Quand on parle de reconnaissance, souvent en conférence, en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui nous dit « oui, mais quand on aime, on ne doit pas compter ». Ben, nous, on rajoute, c'est vrai moralement, Mais l'énergie, elle, elle fonctionne pas selon un principe moral. L'énergie, elle fonctionne selon un principe très, très basique, là. Il y a de l'énergie ou il y a moins d'énergie. Puis la reconnaissance, paraît-il que ça fait beaucoup de bien. Les proches aidants nous le disent. Bon, on exclut les maladies cognitives où la personne ne fonctionne plus normalement par rapport à l'intellect, par exemple. Mais dans plein de situations, les gens vont dire, ben oui, mais tu vois que je suis content. Ben non, mais les femmes, on aime l'entendre aussi. Donc, on fait toujours cette blague-là où tout le monde, on aime entendre. Même au travail, on aime savoir que on a bien fait les choses et c'est pas juste le salaire qui compte, en fait.
Alors, il y a dans votre livre pas mal de conseils, de choses concrètes. Vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'on y trouve?
Beaucoup de conseils sur la culpabilité, en tout cas. Il y a une grille qui nous aide beaucoup à évaluer la culpabilité, c'est souvent émotif. Ben, c'est souvent quelqu'un qui pense qu'il en fait pas assez ou qui voudrait guérir la personne et qui voudrait la soulager. La culpabilité, c'est comme la capacité de s'en mettre beaucoup sur les épaules. Alors, il y a toujours le jeu qui s'en met sur les épaules, mais le contexte, la maladie est un contexte qui fait que des fois, on voudrait en faire plus, mais ce n'est pas possible. Donc, le conseil que je donnerais, si les gens ont le goût de lire un peu, c'est vrai que les prochains ans nous disent on n'a pas tellement le temps, mais encore, c'est pas un livre qui se lit comme un roman. On peut ouvrir les pages au hasard et puis regarder 3-4 lignes, ça peut aider. Donc, je conseillerais beaucoup d'abord de regarder, d'évaluer la responsabilité. On dit souvent que les proches aidants sont des gens sur-responsables. Ce n'est pas un mot, mais ça explique un peu, j'en fais beaucoup, puis j'en fais plus des fois que la personne en demande parce que j'ai du cœur à l'ouvrage, je veux soulager. Mais c'est important de nuancer souvent les investissements d'énergie.
Dans tous les témoignages que vous avez pu entendre, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans la bouche des aidants?
J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est mon père. J'ai pas le choix, c'est mon fils. J'ai pas le choix, c'est ma mère. Alors, nous, on répond à ça. Oui, on comprend ce que les gens veulent dire par « je n'ai pas le choix ». Sauf que quand on se dit ça, les recherches sur le cerveau démontrent qu'on ne cherche plus les options. Alors, nous, on a fait deux images dans le livre. Il y a le choix du cadre. Évidemment, personne ne choisit la maladie et personne, au départ, ne choisit d'être proche aidant. On choisit pas à 20 ans d'être proche aidant. Ça arrive à cause des circonstances de vie. Ce qui revient le plus souvent, c'est « je n'ai pas le choix ». Nous, on suggère aux proches aidants de dire « dans ce cadre-ci de ma situation à moi, quels sont les plus petits choix possibles que je peux faire pour ménager mon énergie. » Ça peut être aussi bête que j'achète de la pizza, là. Ça peut aller des fois dans des choses aussi minimalistes que ça, mais parce qu'il n'y a pas de petite économie d'énergie dans cette situation-là. Donc, c'est à chacun de voir. Des fois, ça peut être, ben, je répondrai pas à une amie qui se plaint toujours, alors que moi, ben, je suis complètement dépassée par la situation. Alors, je peux regarder mon répondeur puis dire, aujourd'hui, je vais pas répondre à cette amie-là. Ça a l'air un peu bizarre, oui, mais je viens de sauver un peu d'énergie quand même.
Ça peut aussi être, je fais le choix de parler avec des membres de mon entourage ou de ma famille, de demander de l'aide à certains moments, de demander des services, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas demander parce que, dans leur esprit, c'est manquer d'autonomie. Être autonome, c'est s'arranger tout seul. Non, être autonome, c'est savoir aussi demander quand c'est nécessaire. Donc, savoir faire des demandes, savoir mobiliser l'entourage, parler aux autres membres de la famille, aller chercher des services dans des associations ou dans les services publics, ça, c'est des choix possibles à l'intérieur du cadre de la prochaine danse. Sortir de l'isolement aussi. Briser l'isolement, c'est extrêmement important. Et même, je soulignerais ici, les recherches ont démontré que ça vise particulièrement les hommes. Il semble, selon les principales recherches, que les hommes ont plus de mal à demander de l'aide. Ils veulent plus s'arranger tout seuls. Donc, c'est important, ça, de vraiment briser cette idée qu'il faut se débrouiller tout seul. On n'est pas seul, on a un entourage, on a des amis, on a une communauté, et je pense qu'il faut s'appuyer sur les autres.
Puis la force de ce livre-là aussi, des exemples qu'on apporte, en fait, moi, j'étais proche aidant de mon père. Ensuite, j'ai soutenu mon frère que sa femme avait une démence frontale. Ensuite, en ce moment, c'est ma sœur qui a la maladie d'Alzheimer et il y a la nièce qui a dû laisser son travail pour s'occuper de sa mère parce qu'elle est fille unique. Donc, oui, on a des études qui nous aident, mais on a une expérience professionnelle, mais on a aussi une expérience personnelle qui donne beaucoup de crédibilité dans nos propos.
Et c'est important de souligner que chaque chapitre du livre, au début de chaque chapitre, il y a une histoire. Il y a une vraie histoire d'une vraie personne et on explique un peu les aspects plus théoriques à partir de cette histoire-là. Donc, c'est intéressant à lire, c'est intéressant de savoir ce qui est arrivé à la fin de l'histoire et ça facilite la lecture du livre.
Alors, une question un petit peu plus personnelle, pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre?
Le besoin, en fait.
Ouais. En fait, c'est parti des services à domicile, de mon expérience personnelle en service à domicile, et du fait qu'à ce moment-là, il n'y avait rien. Ça, c'est à la fin des années 80, début 90. Il n'y avait pratiquement rien d'écrit sur la proche aidance. Il y avait déjà des livres sur le burn-out professionnel. Ça ne correspondait pas du tout aux besoins qu'on voyait sur le terrain. Donc, c'est pour pallier un peu à ce manque-là, et parce qu'on pensait que on devait faire quelque chose de préventif pour ne pas agir après coup quand l'épuisement est déjà installé.
Ben, ça fait 35 ans qu'on est dans le domaine et puis évidemment, on a appris aussi beaucoup des proches aidants. On a peaufiné, c'est notre 7e livre. On a écrit en premier pour les professionnels, les soignants, les travailleurs sociaux, les psychologues. Mais là, le dernier livre, c'est vraiment pour le proche aidant lui-même. Donc, c'est l'aboutissement de tout un parcours de réflexion par rapport à la proche aidance.
Et puis un mot pour finir cette émission, un mot aux aidants qui nous écoutent, quel serait-il?
En fait, on parle souvent d'échelle de valeur. Les proches aidants ont souvent une échelle, ça va l'air bizarre, mais à l'horizontale. Ça veut dire que toutes les valeurs ont la même valeur. Alors, on leur suggère de mettre leur échelle debout et de ne jamais bouger. La santé doit être le chef d'orchestre de toutes nos décisions. La santé comprend aussi la capacité de gérer et l'énergie qu'on a à disposition. Donc, souvent, on a posé une question à des aides-soignantes aussi. La santé, ben, on dit, mais c'est pas une valeur, la santé, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ben, justement, c'est une valeur. Donc, mettons notre échelle de valeur debout d'abord. Et puis, la famille, oui, c'est important, mais ça peut être en premier, c'est avec la santé. Parce que si le proche aidant, d'ailleurs, il y a des études qui démontrent que le proche aidant, souvent, il est malade, donc il peut plus continuer. Donc, ça devrait convaincre de dire maintenant, quand j'ai une décision à prendre, je me dis, est-ce que ma santé me permet de prendre cette décision? Est-ce que ma santé me permet telle chose? Et c'est le chef d'orchestre, la santé.
Peut-être la phrase qui illustrait mieux cette idée-là, c'est la phrase qui est « Je suis d'abord responsable de moi, parfois des autres, pour certaines choses et pour un certain temps. » Parce que si je suis pas d'abord responsable de moi, comment je vais pouvoir aider l'autre? Si moi, je perds ma santé, comment je vais pouvoir continuer à soutenir la personne malade? Donc, c'est important de... Je sais que ça peut avoir l'air bizarre pour certaines personnes, donc je pense que c'est simplement réaliste. Je dois d'abord être responsable de moi, sinon qui va l'être? Et ensuite, je suis responsable de l'autre pour certaines choses et pour un certain temps. Donc, je peux pas être responsable de tout. Je vous donne un exemple. J'ai des proches aidants qui veulent que leur mère soit sereine, que leur mère meure sereine. J'ai même déjà entendu ça. Et on peut pas être responsable du bonheur des autres. Donc, c'est important de mettre ces balises-là pour pas tout porter sur notre dos, comme disait Michel tout à l'heure, tout mettre sur le jeu. Donc, c'est un peu le message que je voudrais laisser, là, qu'on est d'abord responsable de soi-même.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnées.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve très vite sur cette antenne. En attendant, vous pouvez continuer de nous écouter, de nous écrire et puis réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie,
n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.